Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Erdivois sur 107.5 FM et sur www.rdwa.fm. Je suis en compagnie de Mathias Roux, chargé d'études auprès de la Carline concernant une étude dont nous allons parler relativement bientôt, et Gilles Chabanet, son directeur, qui sont tous les deux venus parler d'un projet dont je vais leur laisser la teneur. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Donc justement, vous êtes en train de consulter la population pour un projet qui vous tient à cœur. Alors parlons-en tout de suite.
En fait, on a un projet de développement de la vente des produits bio sur l'ensemble du Diois, au-delà de la ville de Die, où pour l'instant on a notre épicerie. Mais l'idée, c'est de pouvoir rayonner un peu plus loin et de proposer des produits bio et si possible locaux à des habitants qui sont plus éloignés de la ville. Donc soit des particuliers qui sont sur des espaces pigeonniers, Châtillon, La Motte, enfin sur l'ensemble du territoire de Diois, vers des particuliers, vers des groupements d'achat qui existent déjà, qui sont aussi potentiellement intéressés, vers des cantines scolaires, vers des restaurateurs, des auberges, des campings, qui auraient envie de se fournir en produits bio avec une démarche éthique derrière. Dans les grandes lignes, le projet, c'est celui-ci. Donc on s'est dit qu'on avait besoin d'aller à la rencontre de ces habitants de l'ensemble du Diois et qu'on avait besoin d'avoir un camion qui fasse des tournées de livraison. Donc on a enclenché une étude de faisabilité sur 5 mois avec Mathias Roux, qui est financé dans le cadre du projet PSADER et de financement européen aussi, qui nous va nous permettre de construire des circuits de livraison. Et ces circuits de livraison, on souhaite les construire avec les acteurs qui vont être avec les clients, avec les personnes qui vont acheter ces produits-là. Et donc, on est en train de mettre en place tout un ensemble de réunions avec les particuliers ou les groupements d'achat ou les restaurateurs et les cantines sur 4 ou 5 zones du Diois dans le mois de novembre, décembre principalement.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ce service de livraison à domicile ou un petit peu partout ?
Mais en fait, il y avait deux choses. C'est que ça fait déjà très longtemps qu'on était un petit peu attendu pour approvisionner les cantines scolaires, parce que le développement de la bio dans les cantines pour nourrir sainement les enfants, c'est quelque chose qui s'est déjà bien ancré dans le Diois depuis une dizaine d'années. C'est quelque chose sur lequel le gouvernement français met l'accent plus fortement depuis un peu moins de temps et qui devient une politique publique. Et nous, on s'est dit qu'à la Carline, on avait un rôle à jouer là-dessus, parce qu'en développant l'approvisionnement de ces cantines-là, en fonction de la méthodologie d'approvisionnement qu'on a, on oriente le développement agricole sur un territoire. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que la bio dans les cantines, ou le développement de la consommation de la bio, bénéficie au territoire, à la relocalisation de la production et de l'économie, et donc qu'elle bénéficie aux producteurs du coin. Donc l'idée, c'est d'arriver à développer ces productions locales à partir de marchés qui sont un petit peu nouveaux. La bio dans les cantines, la bio chez des particuliers qui pour l'instant consommaient moins en bio, ça c'est un enjeu pour demain. Donc en fait, c'était une motivation qu'on avait depuis longtemps, sauf qu'auparavant on n'était pas trop en capacité d'y répondre, parce que ça demande une structuration interne qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Et donc, on a mis du temps à dire oui ou à se dire oui. Et puis, depuis 2 ans, au niveau de la coopérative, avec les 250 sociétaires, on y a réfléchi et on s'est dit que c'était là-dessus aussi qu'on voulait aller. On a changé de local il y a 2 ans. On a bien digéré notre changement de local aujourd'hui. On est à l'aise dans notre nouveau local en matière d'organisation de l'équipe salariée de la COP. Et donc, on peut commencer à se pencher sur d'autres projets. Donc il y avait ce premier jet de l'approvisionnement des cantines, et puis un deuxième projet qui commençait à naître, qui était un projet d'avoir des camions pour pouvoir servir des habitants qui viennent moins faire leurs courses régulièrement à Die, parce qu'ils sont plus loin de Die, ou parce qu'ils n'ont pas envie de se déplacer tout le temps, de perdre du temps et de cramer du gasoil en voiture, donc sur une démarche aussi écologique. Et donc on avait envie d'aller au-devant de ces habitants-là, d'où l'idée d'un camion, un petit peu camion à l'ancienne, mais avec des techniques un peu plus adaptées à la vie d'aujourd'hui, en allant proposer les produits bio dans les villages. Et puis on s'est dit, sur ces deux projets-là, on va cumuler 2 handicaps, les 2 mêmes handicaps sur le Diois. On est sur un territoire peu dense en matière d'habitation et sur lequel les déplacements ne sont pas aisés, parce que les routes sont plutôt compliquées. Donc on allait avoir beaucoup de kilomètres à faire et pas énormément d'habitants à servir, donc pas beaucoup de produits en termes de volume. C'est pas les bassins de consommation de Lyon, d'Avignon, de Valence ou de Marseille, quoi. C'est le Diois, donc c'est 9 000 habitants sur tout le territoire. Et donc on s'est dit qu'on avait besoin de mener les deux projets de front pour amortir des frais logistiques et pour que le projet soit pérenne et jouable sur la durée.
Alors, c'est pas tout à fait le sujet, mais quand même, j'avais cru comprendre qu'un des problèmes d'alimenter tous nos chères têtes blondes en produits bio, c'est qu'au niveau des fournisseurs, ça avait tendance à ne pas pouvoir suivre. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Ouais, c'est vrai que c'est un des problèmes de fond, c'est que le développement de la consommation en bio en France, d'une manière globale, se développe beaucoup plus rapidement que la production. D'une manière macro, d'une manière globale, le développement de la consommation se fait en développant les importations. Au niveau de la méthodologie d'approvisionnement dans la COP, aujourd'hui à la Carline, on essaye de développer, on a tout type de produits alimentaires et ces produits, quand on les trouve localement, on les prend localement. Quand on ne les trouve pas localement, on va les chercher plus loin. Mais on est toujours au clair qu'à partir du moment où on a une opportunité de les trouver localement, les productions locales sont prioritaires. Et ça, on le travaille au quotidien. Et ça, on arrive à le travailler et à développer la place des producteurs ou des transformateurs locaux. Parce qu'on a structuré notre marché et parce qu'on a du coup une demande sur ces produits-là. Et du coup, on peut anticiper et construire ça en avance. C'est-à-dire qu'on fait des réunions de programmation, par exemple, j'en ai une la semaine prochaine avec les maraîchers, pour programmer le travail d'approvisionnement avec les maraîchers pour qu'ils puissent mettre en culture avant en fonction des demandes de la Carline aussi. Et ce travail-là, on peut le faire parce qu'on sait les produits, les quantités, les périodes où on va écouler tout ça. Et sur ces marchés-là, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'on peut être au départ peut-être sur une part d'approvisionnement local qui peut être au départ faible. Mais par contre, nous, notre boulot derrière, c'est de structurer la production locale pour qu'elle y réponde le plus possible. Et donc, on va essayer de construire les filières locales pour répondre à une demande qui est là et aujourd'hui qui est servie différemment par du bio ou par du conventionnel classique, quoi.
Donc alors, pour répondre à ma question, est-ce que c'est possible de nourrir des enfants, des cantines, avec de la nourriture bio de nos jours ?
Oui, ça ne s'impose pas de... Au niveau méthodologique, ça a été assez bien avancé. Dans le départ de ces projets-là, ce qui a pu capoter, c'est qu'on a cherché à faire de la communication et à construire des actions sur la communication. C'est-à-dire qu'on avait commencé à construire, pas nous au niveau de la Carline, hein, mais dans des opérations qui ont pu démarrer il y a une dizaine d'années, 10 ou 15 ans par exemple, sur ces sujets-là. On approvisionnait des cantines en faisant un repas tout bio un jour dans l'année. Sauf que ça permettait de mettre la photo des gens qui faisaient ça dans le journal, mais ça s'arrêtait là parce que ça ne structurait pas des filières. Les producteurs, ils ne pouvaient pas s'organiser pour construire l'approvisionnement et leur production sur la suite. C'était de l'événementiel, c'était pas du travail de fond. Et donc, les méthodologies d'introduction des aliments bio dans les cantines, elles ont fortement évolué à partir de ce constat-là, en essayant de développer les aliments, aliment par aliment, pour construire les filières, filière par filière, petit à petit, et aussi pour que les cantines, pour que les cuisiniers ou pour que les particuliers aient le temps de se mettre au bio, parce que ce n'est pas la même cuisine, ce n'est pas la même façon de travailler les produits. On travaille sur des produits de saison, on n'a pas des tomates au mois de janvier, au mois de février, donc on ne consomme pas la même chose en fonction des saisons. Et ça, ça joue sur le coût. On peut consommer bio, y compris dans des cantines, sur des repas tout bio. Si c'est bien travaillé dans le temps et bien amené progressivement sur 4-5 ans, on peut y arriver avec le même coût des denrées alimentaires qui composent le repas.
Je suppose que si j'ai bien compris, dans l'entame, Mathias Roux, tu as été embauché pour évaluer la question, savoir si c'était possible, rentable aussi, éventuellement.
Oui, il y a une dimension de faisabilité économique qui est indéniable. C'est pour ça qu'entre autres, en termes de stratégie, on pense associer à la fois la distribution, enfin l'approvisionnement des habitants du Diois et des structures plus collectives pour mutualiser les coûts que ça génère.
Donc, est-ce que vous avez fait une étude de clientèle, voir s'il y avait suffisamment de clients pour générer un chiffre d'affaires qui prouve que ça vaille le coup ?
Ben en fait, notre stratégie, ça a été de développer une approche participative. Ce qui permet de concrétiser cette approche participative, c'est la mise en place de réunions sur tous les cantons du Diois pour analyser un peu plus la demande, voir quelles sont les attentes, quel est un peu le détail des besoins. Donc on a mis en place 6 ou 7 réunions sur l'ensemble du Diois. Et c'est à cette occasion-là et qu'on pense avoir déjà une première évaluation participative qu'on va compléter par des questionnaires techniques plus individualisés au niveau des particuliers et au niveau des structures collectives.
Ça veut dire qu'en ce moment, tant que ces réunions qu'on annoncera tout à l'heure ne sont pas enclenchées, Vous n'avez en fait aucune idée de la viabilité du projet.
Tout à fait, oui. On est au début de l'étude, et donc c'est à la fin de l'étude qu'on aura une idée précise de la faisabilité ou pas de ce projet.
C'est l'étude qui a démarré au 15 octobre, qui se terminera vers la mi-mars, au 15 mars, donc on est sur la phase de démarrage. Sur la question de la rentabilité, au niveau de la SIC Carline, nous on a pour objectif de dégager du profit sur la SIC de manière globale. Et on a un objectif d'amortir des coûts et de pouvoir avoir des marges de manœuvre pour faire d'autres projets.
Même les SIC n'aiment pas perdre de l'argent.
Mais les SIC ne peuvent pas perdre de l'argent, ce sont des entreprises, ce sont des coopératives, ce sont des entreprises en même temps, c'est des entreprises coopératives. Et donc le modèle économique doit en effet être un modèle équilibré. Le pari de la SIC, la Carline, c'est de traduire dans le champ de l'économie une posture éthique et de se dire qu'on peut faire de l'économie autrement, en dehors du système libéral et dans un système où on met tout le monde autour de la table et on met les consommateurs, les producteurs, les salariés autour du métier qui leur est commun pour voir comment on peut construire ça et que l'objectif, c'est pas d'être un centre de profit comme on entend habituellement sur des magasins classiques. On n'est pas un centre de profit, on est un centre, on essaye de construire un intérêt collectif. Et le moyen pour ça, c'est d'équilibrer nos comptes et que financièrement, la société ne soit pas en difficulté et qu'elle puisse développer des projets. Donc, notre objectif, c'est d'impacter sur le territoire, c'est pas de faire du pognon. Ça, c'est important. Et du coup, sur ce projet-là, on n'a pas d'objectif de rentabilité en tant que tel, on a un objectif d'équilibrer les comptes. C'est-à-dire que sur ce projet-là, on équilibre les comptes simplement sur le coût du camion, sur le coût de la personne le salarié qui va être sur le camion. Ça nous suffit largement. Le principal, c'est qu'il y a un bénéfice sur le territoire derrière.
Alors, un bénéfice secondaire indéniable, effectivement, de structuration d'une filière.
Oui, tout à fait. Le bénéfice, c'est le fait que sur un territoire, il y ait des producteurs qui puissent se diversifier, d'autres qui puissent s'installer sur des productions rémunératrices et donc que ça permette à un territoire de se développer au niveau agricole, au niveau de la transformation des produits alimentaires, parce que c'est quand même un des enjeux du DIWA pour demain.
Alors si on en revient à cette étude, alors elle a démarré donc en octobre, quelles sont les principales phases qui vont s'enclencher jusqu'en mars, si j'ai bien compris?
Donc on a débuté plutôt par une phase d'analyse des chiffres institutionnels, statistiques, etc. Associé à ça, on a fait des visites de structures qui avaient des actions similaires. Donc je vais citer la coopérative du Bouèche, qui est une coopérative aussi de distribution de produits bio et paysans locales, qui se trouve dans le Bouèche et qui a réussi à mettre en place à la fois deux petites boutiques et un camion itinérant qui permet de livrer les commandes à des habitants isolés. Et en plus, elle a une capacité à s'appuyer sur son réseau de coopérateurs et de membres qui a donné une certaine réussite dans ce sens-là. Et on a également rencontré une autre structure qui est en train de se développer, qui est plutôt sur le bas de la vallée de la Drôme, qui s'appelle Agricour, qui a pour rôle de s'approvisionner auprès de producteurs locaux et d'approvisionner à la fois des groupements de particuliers et à la fois des structures de restauration collective, écoles, lycées, collèges et d'autres types de structures. Il y a aussi une structure qui existe du côté de Grenoble qui s'appelle la Charrette Bio, qui a un camion de cette fois de producteurs qui distribue lui des paniers de fruits et légumes à travers un camion et qui développe une activité dans l'agglomération grenobloise. Ainsi qu'une autre structure qui s'appelle Alter Conso, qui est sur Lyon et qui fait, elle, de la pro de paniers sur toute l'agglomération grenobloise, qui marche très très bien. Et donc c'était important pour nous de commencer par cette analyse-là. Ça nous permet de voir en termes d'approche qu'est-ce qu'on peut en retirer et qu'est-ce qui peut nous servir à nous-mêmes développer notre propre stratégie pour arriver au résultat qu'on souhaite avoir. Donc à partir de là, on prépare à la fois la mise en place de ces réunions sur les cantons du DIWA, à la fois des questionnaires plus détaillés qui permettront d'avoir des informations quantitatives et qualitatives précises auprès des clients, auprès des structures de restauration collective. L'ensemble de ces informations vont nous permettre de définir les gammes qui correspondent à tel type de public, à tel type de structure, et de pouvoir faire un prévisionnel financier qui nous permettra de savoir si on, sur 1, 2, 3 ans, on arrivera à avoir un seuil de rentabilité raisonnable, parce qu'effectivement l'idée c'est pas de perdre, c'est que ça s'amortisse en fait.
Alors pour le consommateur qui sera livré en camion très pratiquement, est-ce qu'il y aura un léger surcoût pour payer l'essence ou je ne sais quoi?
Mais ça on n'a pas encore forcément d'éléments sur le montage économique et sur les marges, sur tout ce qui va être de la politique de marge sur le projet camion. Parce que ça dépend aussi des questions des volumes et donc des résultats de l'étude de faisabilité. Ça fait partie des attendus qu'on a. En termes d'objectifs, le camion, par rapport au prix qu'on a dans le magasin, l'objectif, ce serait d'arriver sur des prix dans le camion qui soient à peu près ceux du magasin. Après, il y a une autre démarche qu'on souhaite impulser derrière parce qu'il nous semble qu'elle a du sens sur le DIWA et qu'elle a du sens pour créer du lien social. C'est celle des groupements d'achat qui sont déjà en place et sur lesquels on a déjà été sollicité par des groupements d'achat pour fournir des produits. Sauf qu'au niveau du local de vente qu'on a actuellement, on n'a pas la capacité de stocker et donc de répondre à ces sollicitations de groupements d'achat. Et ça nous embête parce que du coup, il y a de la demande qu'on sent très forte chez certains consommateurs du DIWA, chez certains sociétaires à la Carine aussi, et sur lesquels on ne peut pas répondre pour des questions d'organisation et de logistique pure. Et là, avec ce projet camion qui s'accompagnera nécessairement d'un espace de stockage pour la Carline qui sera différent aussi, avec ce projet-là, on aura à la fois un service de livraison possible et un espace de stockage, ce qui nous permettra de stocker des denrées en quantité suffisante pour répondre à ces groupements d'achat. Et l'idée à travers ce projet-là, c'est que le camion il puisse aussi du coup aller à la rencontre de particuliers, c'est une chose, et puis à la rencontre de personnes qui vont être un peu des personnes relais ou des personnes pivots qui vont fédérer autour d'elles d'autres personnes. On va y regrouper donc des commandes, soit dans le cadre de groupements d'achat qui existent déjà, soit dans le cadre de relations amicales ou de voisinage, de personnes qui vont se regrouper entre elles pour. Et donc là, l'idée, c'est d'arriver aussi à avoir une politique tarifaire qui tienne compte de ce regroupement-là et de pouvoir du coup servir aussi des populations qui sont parfois en position un peu plus précaire avec des quantités commandées qui vont être plus importantes et où nous, derrière, on n'a pas le même coût économique pour livrer. Donc ça se justifie au niveau du modèle économique qu'on fasse un effort sur la marge commerciale qu'on fait derrière. Les chiffres, enfin, je ne peux pas les sortir maintenant, ça dépendra tout de l'étude de faisabilité et des volumes qu'on aura derrière, mais dans l'esprit, ce qu'on a derrière, c'est bien ça. Et ce qui nous semble important, c'est que les groupements d'achat, ça, c'est quelque chose qui est assez ancien sur le territoire du DIWA. La Carline, c'est née d'un groupement d'achat. À l'origine, c'était un groupement d'achat. En construisant notre démarche, en se professionnalisant et en créant du lien avec les producteurs locaux, on est sorti d'une démarche de groupement d'achat. Parce qu'on a avancé aussi sur la construction de ce qu'on est aujourd'hui en 22 ou 23 ans. Maintenant, le fait que ces demandes-là existent encore aujourd'hui et qu'elles se multiplient aussi, elles sont assez présentes, on l'a bien en tête et nous, ça nous permettra d'y répondre. Et je pense qu'un autre intérêt du groupement d'achat, c'est de créer du lien social ou de dynamiser du lien social parce qu'il y a des personnes qui vont se retrouver autour de la consommation de produits ou de la commande de produits. Et avec des discussions off à côté qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec la commande en cours, mais où ça crée du lien. Et du coup, nous, ça a un sens que de participer à la création de liens dans des tissus ruraux où c'est un enjeu que les gens puissent discuter et se retrouver autour d'un café, autour d'une bière, pour causer des sujets qui les préoccupent, quoi.
Alors, je vous titille un peu, est-ce que ça vous chagrine le bilan carbone de ces multiples camions que vous allez être obligés d'acheter ? Peut-être vous allez prendre des camions à pédales ?
On va faire simple, on va en prendre qu'un seul. Et oui, bah nécessairement, un camion, si on arrive à trouver autre chose qu'un camion qui tourne au gasoil, mais pour l'instant, on n'a pas encore creusé ce truc-là. Oui, ça consommera du gasoil, mais en même temps, quand on est, c'est fait partie du paradoxe écologique d'habiter dans une zone rurale. On prend tous notre voiture et on a tous des modes de déplacement qui malheureusement ne sont pas doux. Par contre, quand on mutualise des déplacements avec du gasoil derrière et du moteur thermique, on réduit quand même l'empreinte carbone qu'on peut avoir. Donc, je pense qu'au niveau de l'empreinte carbone, le pari qu'on peut faire, c'est que le fait qu'on aille à la rencontre des consommateurs, ça leur permet, eux, de faire moins de kilomètres et de moins venir sur 10 pour s'approvisionner en produits. Donc, au lieu d'avoir 40 personnes qui vont faire leurs courses sur 10 sur une journée, sur 10 ou ailleurs, et puis consommer pas forcément des produits locaux avec un autre bilan carbone derrière, là, nous, ce qu'on peut proposer, c'est un service qui amènera aussi des produits locaux et qui va permettre de livrer chez les 40 personnes. Donc, en termes de bilan carbone, il ne faut pas regarder que le gasoil qui va être cramé dans le camion, qui, en effet, lui, va être consommé. Mais quelle autre solution technique on peut avoir ?
Très bien, on va peut-être revenir un petit peu à la suite des événements. Donc vous avez dit qu'il y avait un certain nombre de réunions qui allaient être organisées pour mettre un petit peu au jus et puis récolter des informations localement hein, au niveau des cantons. Donc est-ce que c'est possible de parler un petit peu des prochains rendez-vous ?
Donc on a déjà débuté ces réunions depuis la semaine dernière. On a commencé par une réunion à Saint-Romain qui s'est déjà fait. La prochaine, c'est lundi prochain. Ça se passera à la salle de la mairie de Châtillon-en-Diois. De 18h à 20h, le 3 décembre. Celle d'après, ce sera le vendredi 7 décembre dans le hall de la salle polyvalente de Luc-en-Diwa, de 12h à 14h30, avec un repas partagé qu'on pourra avoir ensemble après le marché. Le mardi 11 décembre, ce sera à la salle de la mairie de Saint-Nazaire-le-Désert, de 18h à 20h. Le jeudi 13 décembre, ça sera à la salle de la mairie de la Motte-Chalancon de 18h30 à 20h. Et il y en aura encore une autre qui n'est pas encore calée sur la vallée de Quin et sur l'Usse-la-Croix-Haute.
Donc dans le cas où tout se passe à merveille, tout roule sur des roulettes, quand est-ce que cette opération de livraison de produits bio partout dans le Diwa pourrait démarrer à votre avis ?
L'idée, c'est de démarrer ça sur le début de l'été, donc mois de mai. C'est un timing assez serré, mais en même temps, il y a une grosse demande, par exemple, dans les cantines scolaires, qui est déjà présente depuis assez longtemps. Donc pouvoir y répondre à cette demande-là à partir de septembre prochain ou un petit peu avant, ça me paraît important. Et puis l'idée, c'est de démarrer avant la saison touristique parce qu'on va aussi, nous, essayer de répondre à des demandes de touristes derrière parce que ça donne du sens aussi au territoire et ça permet aussi d'amortir les coûts de manière plus facile. Et il faut qu'on le démarre donc avant la saison touristique, donc vers le mois de mai-juin.
Très bien. Mathias Roux et Gilles Chabanet, merci d'être passés relayer ces infos concernant les projets de la Cardine. Je vous souhaite une bonne journée et une grande réussite dans vos projets.
Merci à toi.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Interview. 1-ter-view.
Hey, the bird.
L'interview du jour. L'interview du jour.